Bonjour, on est content de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère et surtout de retrouver notre technicienne émérite qui est aussi membre de Comaguerre. Donc bonjour Roselyne, merci de t'être remis au pupitre, aux manettes et tout et tout.
Bonjour à tous.
Voilà.
Bonjour, bonjour Rose.
Bonjour Habib aussi.
Bonjour Bernard.
Et on va faire un petit tour d'horizon de la situation internationale comme on en a l'habitude. Alors, je vais commencer par sortir un petit peu de ce qui a été au cœur des débats, parce que c'est assez intéressant pour ce que ça dit en termes de rapports coloniaux, rapports interimpérialistes, etc. Il s'est passé ce dimanche au Venezuela, vous voyez que je sors un peu du cadre, oui. Un référendum. Très intéressant. Un référendum très intéressant parce qu'il se trouve qu'il y a, entre le Venezuela et le pays nouvellement indépendant qu'on appelait la Guyane britannique, qui s'appelle maintenant Guyana, qui était une colonie récemment décolonisée, un conflit territorial de très vieille date. Et le référendum qui était organisé donc par le gouvernement vénézuélien était un référendum tranquille, pacifique, pour appuyer la position du Venezuela par rapport à un conflit frontalier qui existe entre donc le Venezuela et ce pays frontalier qui s'appelle la Guyana aujourd'hui.
Ouais.
La Guyana, je le dis au passage pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans les ports et de regarder à la proue des bateaux, à la poupe plutôt des bateaux, vous voyez souvent marqué Georgetown. Vous dites, où c'est ça? Eh bien, Georgetown, c'est la capitale de la Guyana. Hein? Donc, on immatricule son bateau pour presque rien, même si c'est un yacht de 150 mètres avec 30 personnes d'équipage, etc., qui a coûté des centaines de millions de dollars.
Il y a quelques années, j'étais là-bas.
Tu y étais?
Oui.
Ah, mais raconte-nous alors.
Oui, oui, justement, ce que tu racontes, c'est vrai. D'une part, d'autre part, la Guyane, c'est un petit peu plus grand que la Guyane française.
Voilà.
Et puis, il y a des saisons, bon, il y a la saison de
pratiquement pluie. Sous l'équateur, voilà.
Oui, oui, beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau, c'est vraiment... Et beaucoup des...
Le Guyana? Ah
ouais.
Bon, moi je dis, ah bon.
Alors, ouais, le Guyana, oui.
Ah oui. Non, non, Roselyne me fait une observation disant, c'est pas la Guyana, c'est le Guyana.
Bon, le Guyana, alors, oui, c'est alors, pareil.
Le Guyana. Donc, ancienne colonie britannique, décolonisée dans les années 60.
Ouais.
Bon, bah, pas de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que, vous le savez, dans la décolonisation, l'Amérique latine a été relativement en avance par rapport aux autres pays et aux autres continents. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Amérique latine, comme on dit latine, elle avait été colonisée par deux pays latins, d'où le terme, hein, des pays latins qui étaient l'Espagne d'un côté, qui a colonisé la quasi-totalité du continent depuis le Mexique jusqu'au Chili tout en bas et à l'Argentine, et puis le Brésil qui n'en a colonisé qu'un, mais le plus gros, hein, le Portugal qui a colonisé le Brésil le plus gros.
Bon. Ouais.
Bon, c'est pour ça qu'on l'appelle latine, puisque le Portugal et l'Espagnol, le Castillan, sont de langue latine.
Bon,
tout ça s'explique. Et donc, l'émancipation des colonies espagnoles ou portugaises a lieu très tôt, et la décolonisation d'une certaine façon, puisque ces pays sont indépendants entre 1820 et 1840. Donc bien avant la décolonisation et de l'Asie et de l'Afrique. Ça, c'est tout à fait clair. Il se met à la tête de ces pays un certain nombre de dynasties qu'on peut classées sous la catégorie concernant bourgeoises ou aristocratiques, de propriétaires fonciers et tout, donc des gens évolués, qui sont beaucoup des colons venus d'Espagne, qui vont d'ailleurs, selon les pays, être plus ou moins gentil, le terme est faible, avec les populations indiennes sur place.
Il y a une population noire et amérindienne.
Voilà, la population d'origine est amérindienne. Et puis il y a eu, grâce d'ailleurs principalement à cette arrivée, et même pendant cette indépendance, du fait qu'il y a beaucoup de terres à cultiver, des quantités d'hectares, que ce soit en Argentine, partout. Et donc il faut venir, ne serait-ce que pour la canne à sucre, pour d'autres cultures tropicales qui intéressent les Européens et les Américains du Nord, il faut faire venir des esclaves. Donc on a un mélange de populations qui, alors, d'un pays à l'autre, est extrêmement... La proportion est très, très variable d'un pays à l'autre. Vous savez, pour parler brièvement de l'Argentine, c'est un pays beaucoup plus blanc que ses voisins. Hein. Le Brésil est assez mélangé. Le Chili, c'est encore autre chose. Il y a eu beaucoup d'arrivées d'Europe, mais pas des Italiens comme en Argentine, mais plutôt des gens d'Europe de l'Est, des Allemands. Ben, donc, dans chacune de ces républiques de l'Amérique latine, il y a des dosages ethniques différents. différent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, pratiquement tous les pays sont indépendants dans ces années-là, du milieu du siècle, avec, on attache le nom de Simon Bolivar, et puis de Santa Maria pour la partie sud, et il reste encore quelques restes coloniaux quand on arrive au XXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il reste presque rien, puisqu'il va rester en fait trois colonies, hein, je me situe en 45, trois colonies qui sont le Guyana, donc colonie britannique, qu'on appellera la Guyane britannique, tout à côté la Guyane hollandaise, qu'on appelle maintenant le Suriname, et encore un peu plus au sud, la Guyane française, dont vous avez entendu parler, bon, Kourou, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se retrouve à la fin donc, du 19e siècle, et à un moment donné, il y a le gouvernement du Venezuela. Alors, ce n'est pas le gouvernement tout seul, puisque vous savez qu'à l'époque, on est face à une grande Colombie qui rassemble à la fois la Colombie et le Venezuela actuel. Et ce gouvernement de la Grande Colombie, donc indépendant depuis presque 60 ans, demande à la Guyane britannique, donc à la couronne britannique, là c'est directement, il n'y a pas d'indépendance, à lui rendre une partie du territoire que les autres ont occupé. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un arbitrage qui est préparé par un comité qu'on a constitué pour les besoins de la cause, un comité qui est constitué donc à la demande de Sa Gracieuse Majesté britannique, hein, qui ne veut pas lâcher, on imagine, Sa Gracieuse Majesté ne veut pas lâcher cet endroit, il veut garder sa colonie, hein, on est en 1898. Hein. Et donc Sa Gracieuse Majesté britannique met en place un comité où il y a cinq membres, cinq arbitres. Et dans les cinq arbitres, alors c'est très intéressant, il y a deux citoyens des États-Unis qui sont là pour défendre la position des Vénézuéliens, et on a deux Britanniques pour défendre la position de la couronne d'Angleterre, et un noble russe exilé à Londres qui fait partie des amis de Sa Majesté la Reine Victoria. Donc déjà, 3-2. Ouais. Alors pourquoi les deux délégués américains sont les porte-parole des intérêts vénézuéliens? Alors reportons-nous à l'époque. On est à l'époque où la question de la suprématie du monde entre l'Empire britannique, qui est à son sommet, hein, il n'a jamais été aussi grand, vous savez, le soleil ne se couche jamais, etc., et l'Empire américain qui est en cours de constitution, mais qui n'a pas atteint la taille et le pouvoir qu'il a eu après, est en train d'essayer de dire, et c'est ce qui est dans la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Okay. Ce qui veut dire, alors tout le monde le sait maintenant, ça veut dire la totalité du continent américain pour les États-Unis. C'est ça la doctrine Monroe. Et là, donc, les deux avocats, les deux arbitres des États-Unis sont là pour dire, effectivement, le Venezuela, en l'occurrence, bon, la Grande Colombie, a raison. Ce morceau de terre appartient, et c'est vrai qu'il appartient historiquement au royaume de la Grande Colombie. Non, ouais. Ce qui se passe, c'est que, vu la composition de l'arbitrage, c'est évident, hein. 2-3 pour les Britanniques et 2 pour les Américains, c'est les Britanniques qui gagnent, même si le troisième Britannique est un Russe, mais c'est l'aristocratie russe qui est encore sous le tsar, etc., qui fait partie des copains de la reine Victoria. Bon. Et donc, il y a un arbitrage qui est rendu en défaveur donc, de la Grande Colombie, donc appelons ça le Venezuela aujourd'hui, pour qu'une partie du territoire qui était le territoire de la Grande Colombie soit donnée à la Guyane britannique. Ce territoire s'appelle l'Equecibo. Je donne son nom, c'est peu connu. Pourquoi on lui a donné ce nom? Parce qu'il est bordé par un fleuve côtier, un fleuve qui se lève directement dans la mer, qui s'appelle l'Equecibo. Et c'est un territoire qui est quand même d'une grande taille. Bon, c'est pas une petite enclave de rien du tout. C'est 150 000 km². Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai regardé dans les pays d'Europe ce qui ressemblait le plus à 150 000 km², c'est l'Angleterre. C'est pas la Belgique, c'est pas le Luxembourg, c'est un gros morceau et qui est très très peu peuplé parce qu'on est en gros dans la jungle de l'Équateur. Aujourd'hui, il y a 100 000 habitants hein, dans ce secteur-là. Alors vous voyez, 100 000 habitants sur le territoire de l'Angleterre, ça fait pas beaucoup de monde. Mais on connaît ça aussi bien en Guyane française. Il y a quatre chats au milieu de la forêt, sauf sur le bord, sur la côte. Bon. Ouais. Donc, le jugement, l'arbitrage plutôt, puisque c'est une, enfin, c'est même pas une tribune, un tribunal officiel, tout, c'est un arbitrage, c'est-à-dire que les deux parties se sont mis d'accord pour accepter, c'est ça les procédures d'arbitrage, ça existe encore, c'est courant dans le droit des affaires, etc. On se met d'accord, on dit en cas de litige, on va pas devant les tribunaux officiels, où il n'y a pas de tribunal qui acceptera de se traiter ça, on met ça entre les mains d'une commission dont on respectera la décision. Donc, comme la décision est prise en faveur donc, de la Guyane britannique, la Grande Colombie fait avec. Bon. On est en 1898.
Hein. Voilà, pareil.
Voilà. Ce qui se passe après, c'est qu'effectivement, le Venezuela et la Colombie se séparent. Donc, on a le Venezuela qui devient indépendant. Et puis, la Guyane britannique qui va devenir Guyana. Et à ce moment-là, dès que l'indépendance de la Guyana est acquise, le Venezuela revient sur le dossier en disant « Attendez, c'est bien joli, mais ça, cette commission d'arbitrage, elle a travaillé, elle avait le pouvoir qu'on voulait bien lui accorder. Ce temps-là est totalement passé. Les droits historiques, c'est-à-dire bien avant l'arbitrage de 1898, disent que ce territoire appartient au Venezuela. » Bon, bien
et
entendu.
Puis le territoire, il est riche. Hein.
Voilà, alors en plus, voilà. Alors, ça, on dirait, c'est un morceau de jungle, 120 000 personnes, mais c'est quand même grand, 150 000 km² avec un accès à la mer, etc. Or, il se trouve que ça va se compliquer parce que la Guyana, qui a pas mené une guerre de libération nationale, hein, ça a été une indépendance octroyée par la maison mère, la Guyana dit ah, mais je veux pas, enfin, se laisse pas faire, et surtout trouve un appui économique, j'allais dire, de type impérialiste caractérisé. C'est-à-dire que tout le monde sait, les Vénézuéliens aussi, et donc la Grande-Bretagne et le gouvernement du Guyana, sait très bien que ce territoire qui est très peu peuplé est par ailleurs très très riche. Alors très très riche certainement en or, en diamants, et puis le problème c'est que maintenant on y a trouvé du pétrole. Voilà,
oui.
Du pétrole à la fois à l'intérieur des terres et du pétrole sous-marin face à la côte du Guyana.
Ah ouais.
Et ce pétrole il est exploité non pas par un petit outsider, mais par Exxon tout seul, le plus gros, le plus féroce des monopoleurs de l'industrie pétrolière.
C'est ça.
Et donc le conflit prend une toute autre allure, puisque en fait il s'agit maintenant de la part de l'impérialisme, des États-Unis défendant les intérêts d'Exxon, ou d'Exxon s'appuyant sur le gouvernement des États-Unis, bon, peu importe, tout le monde sait comment ça fonctionne. Il s'agit en fait d'empêcher le Venezuela d'accéder à ses ressources et de s'appuyer sur les intérêts pétroliers qui, judicieusement dispersés, c'est-à-dire que quand Exxon va faire 100 dollars de profit, s'il met 2 dollars de profit dans la poche du président du Guyana, ça va suffire à calmer ce monsieur qui n'a pas beaucoup de citoyens à nourrir. Hein. Donc effectivement, la corruption n'est même pas possible, elle est évidente, elle s'impose, parce que c'est toujours comme ça qu'ils font, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Hein. C'est rien du tout par rapport à ce qu'ils vont gagner en exploitant ce pétrole, qui paraît-il est très abondant et d'excellente qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis quand je dis un pétrole d'excellente qualité? C'est pas que je fais l'article pour un produit particulier, c'est qu'il y a des pétroles qu'on appelle des pétroles très légers, que vous pouvez quasiment mettre dans un moteur diesel sans raffinage. Hein. Mmh. Et donc, effectivement, c'est très très intéressant, parce que ça peut servir exactement comme ça. Vous mettez ça directement dans votre réservoir et ça marche si vous avez un moteur diesel. Bon. Et donc, c'est beaucoup mieux à la limite que le pétrole vénézuélien, dont la grosse majorité est un pétrole lourd.
Lourd.
Qu'il faut donc raffiner, qu'il y a du soufre et tout dedans. Bon. Vous voyez, il y a donc un enjeu économique non nul. Alors, ce qui se passe en ce moment, et j'en arrive au référendum, c'est que Maduro, donc le président vénézuélien, dit maintenant il faut qu'on arrête de parler de ce jugement, de cet arbitrage qui n'est pas un jugement de 98, qu'on aille à la racine historique, c'est-à-dire que ce territoire n'a jamais été celui du Guyana, et on demande à le récupérer. On a une position tout à fait claire là-dessus. Et pour tenir ce discours que le gouvernement vénézuélien a déjà tenu, il s'appuie sur la population, et c'était ça le but du référendum. On dit voilà nos arguments de droit, nous voulons récupérer ces territoires et nous voulons y ajouter deux provinces, il y a une constitution un peu fédéraliste au Venezuela, supplémentaire à la République du Venezuela. Et il demande l'approbation populaire. Et l'approbation populaire, il l'a à l'évidence, hein,
c'est
autour de 98%, hein, c'est-à-dire c'est considérable, et il l'a d'autant plus facilement que même la droite vénézuélienne a appelé à voter pour. ce référendum, parce que la droite vénézuélienne s'est dit, moi, si j'appelle à voter non, je dis à la population que les intérêts historiques du Venezuela qui ont été violés par les colonisateurs ne sont pas respectés, et que je ne tiens pas à ce qu'on les respecte. Et donc, ça met la droite dans une position absolument intenable, et donc la droite, tout en disant qu'elle n'aime pas Maduro, mais ça, on le savait depuis longtemps, la droite est obligée d'appeler à voter. D'où le résultat qui est très très net, et qui permet à, maintenant au Venezuela de dire, moi, je considère que j'ai le droit pour moi il a été signé par un protocole de 1966 que la Guyana ne respecte pas, et maintenant je veux qu'on me restitue ces territoires.
Oui, il y a eu un débat sur le Beyadine, justement, c'est là que j'ai compris.
Voilà, l'enjeu.
Mais alors, franchement, il y a un enjeu.
L'enjeu est très important. En plus, on a un face-à-face, donc direct, entre les États-Unis qui pilotent tout ça et Exxon qui est au milieu, et puis le président du Guyana qui se met à dire on est prêt à accueillir une base militaire américaine sur le territoire.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on est prêt à procéder à l'encerclement militaire du Venezuela. Alors, avec la flotte au large, et puis des troupes américaines qui seraient là juste le long de la frontière. Donc ça continue, c'est-à-dire que le face-à-face entre le Venezuela et les États-Unis a pris une nouvelle forme, c'est-à-dire c'est la forme qu'il prend sur ce territoire de l'Esequibo, qui donc ne pèse rien en termes démographiques, je dis 120 000 habitants pour l'instant, pèse beaucoup en termes de richesse, de surface, et maintenant est un enjeu de la guerre impérialiste que les États-Unis mènent sur le continent sud-américain. On en reparlera nécessairement, mais je voulais expliquer...
La fille de Che Guevara,
voilà.
On en a parlé.
Vous savez, effectivement...
Comme elle est embauchée actuellement à Al-Mayadine, la télévision, qu'on en parle souvent actuellement, c'est une télévision de la résistance. Voilà. Ça, il faut bien le préciser.
Il faut bien le dire. Ouais. Alors la fille du Che, effectivement, est cubaine et elle est effectivement journaliste de métier. Ouais. Et donc maintenant, elle intervient dans des chroniques régulières sur la version espagnole donc, de Al-Mayadine.
Al-Mayadine,
c'est une chaîne qui a des versions arabes, bien entendu, initialement, une version anglaise.
Et français.
Une version
espagnole, pardon. Voilà. La France n'a pas accepté.
La France n'a pas accepté, bien entendu. Ouais. Comme par rapport à Al-Manar ou d'autres.
Oui, Al-Manar, etc.
On connaît les positions de la France. Voilà ce que je voulais expliquer en disant qu'on en parle moins, mais la critique de l'impérialisme qui était portée par Chavez et qui est encore portée par Maduro se poursuit, et elle se poursuit activement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement du Venezuela est en capacité de dire « c'est comme ça, vous avez signé en 1966 un accord, ce territoire est à nous, maintenant partez ». Alors ça ne va pas se passer facilement, mais il a l'appui de 98% de sa population, et il aura nécessairement un appui de l'ONU, parce qu'il est incontestable que ce n'est pas la position des 120 000 personnes qui va décider. C'est l'état du droit et l'état des frontières telles qu'elles ont été organisées par les différents traités. Et puis, passer d'un comité d'arbitrage fabriqué par la reine Victoria à quand même un accord entre deux États, ce qui est un autre genre de document ayant beaucoup plus de poids. On en reparlera sûrement, mais c'était intéressant de le noter. Et au passage, je vais aller en profiter pour dire que le Venezuela, dans le même mouvement, alors je ne sais pas si ça s'est fait ce dimanche soir après les résultats triomphaux de l'élection, mais le Venezuela a annoncé qu'il se joignait à la plainte des 5 États à la CPI contre le gouvernement israélien. C'est-à-dire que maintenant ils sont 6. Donc deux latino-américains, la Bolivie et le Venezuela, le Djibouti et les Comores pour la partie africaine, et puis le Bangladesh et l'Afrique du Sud, pour ne pas l'oublier, puisqu'elle est la principale concernée par ces opérations-là. Et on est en plus en période particulière, puisqu'on est en train de célébrer la libération, enfin la fin de l'apartheid.
Ouais.
Et l'anniversaire de Mandela. Voilà. Alors, on était, vous voyez, dans ce sujet des rapports entre l'impérialisme dominant et les autres pays. On y est partout, parce que là, c'est un cas concret, mais c'est dans le monde entier que ça se passe. Ça se passe en particulier, je reste un petit peu en Somalie, puisque la Somalie, qui était sous embargo militaire, parce qu'il y avait, vous savez, que le gouvernement somalien, qui avait d'abord de la peine à régner sur tout son territoire, était installé à Mogadiscio avec difficulté, et il était en prise à des actions de milices islamiques, ce qu'on appelle les Al-Shabaab.
Al-Shabaab.
Bon, il y avait donc un embargo, parce qu'en fait, du côté des milices djihadistes, comme d'habitude, il y avait une espèce de laisser-aller et même de tolérance de la part de l'impérialisme.
Il n'y a rien à gagner, quoi.
Voilà, voilà. Donc, c'était la même attitude que par rapport à, par rapport à l'État islamique, par rapport à Daesh, etc. Bon, on les laissait faire. Alors maintenant, on les laisse moins faire, et effectivement, d'une certaine manière, le gouvernement de Mogadiscio a repris un peu de la vigueur, et maintenant, donc, l'ONU vient de reconnaître que la levée de l'embargo sur les armes était effective. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il laisse le soin au gouvernement de la Somalie de faire régner l'ordre chez lui, par ses propres moyens. Ce qui est un gros changement, et ce qui veut dire, ça a déjà été annoncé, que va se reposer la question du Somaliland, la province nord qui est l'ancienne partie colonie britannique de la Somalie, qui par ailleurs était italienne, qui a pris une indépendance de facto, dans laquelle M. Vincent Bolloré, par exemple, avait ouvert un port, ou avait pris la gestion d'un port, dans laquelle les intérêts des Émirats Arabes Unis sont très très présents, et ils auraient bien aimé en faire un pays, un annexe des Émirats Arabes Unis, ça c'est en train de capoter. Sous nos yeux. Ça, ça fait partie du rééquilibrage des forces, c'est-à-dire le fait que l'Occident soit obligé d'abandonner une milice islamique qui ne lui sert plus à rien et qui est sur le chemin de la défaite, ça veut dire que les gouvernements officiels peuvent reprendre la main et essayer de reprendre la maîtrise de leur territoire. Donc ça va mettre en cause progressivement l'indépendance entre guillemets, réel de facto aujourd'hui, le Somaliland, sa fille, il y a un gouvernement fictif qui est reconnu par personne, mais ça fonctionne, qui a un port qui s'appelle Berbera, où donc M. Bolloré avait mis ses investissements, et puis la Somalie va redevenir vraiment souveraine sur son territoire. Ça ne sera pas tout de suite, mais ça veut dire ce vote à l'ONU sur la fin de l'embargo signifie que le feu vert, enfin, la reconnaissance réelle de la souveraineté du gouvernement de Mogadiscio sur le territoire du pays est reconnue officiellement. Donc personne ne pourra mettre des bâtons dans les roues dans la récupération de la souveraineté. Ça, c'est très très important. Et ça veut dire que d'une certaine façon, si c'est passé à l'ONU, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas pu s'opposer, ne savent pas comment faire.
Bah, ils ont tellement de contradictions.
Voilà. Et en plus, vous savez, quand ils ont voulu mettre les pieds sur le sol somalien, ça s'est très très mal passé, vous vous souvenez. Et donc, ils sont même partis, j'allais dire, c'est pas poli de dire ça, la queue entre les jambes, mais c'est en gros, c'est comme ça que ça s'est passé.
Ils ont soutenu les extrémistes.
Exactement.
En Syrie. Alors qu'actuellement, on a des extrémistes de haut niveau qui font des génocides et qui tuent des gens. Ouais. Ceux-là, non, ce n'est pas des terroristes.
C'est pas des terroristes.
Le Hamas, c'est un terroriste. Alors que le Hamas, c'est les Palestiniens, comme n'importe quel Palestinien. Ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment énervant de voir ces... L'Occident, soi-disant les pays démocratiques, l'Amérique et le Canada, tout ça, qu'ils ont soutenu les extrémistes. Alors que là, il y a deux points de mesure, il y a un problème.
Il y a un vrai problème. Mais qui commence à se résoudre sur le terrain, parce que ce genre de problème se résout sur le terrain. C'est-à-dire que ces dernières semaines, et c'est en train de s'intensifier, les combattants du ce qu'ils appellent le Hezbollah irakien, je dis ça pour simplifier, sont en train de mener des opérations militaires contre les installations des États-Unis sur le sol syrien et sur le sol irakien. En gros, les derniers chiffres que j'ai pu lire, c'est qu'il y aurait encore aujourd'hui en Syrie 1500 soldats des États-Unis.
Oui.
Illégalement, bien sûr, puisque jamais la Syrie n'a accepté.
Il y a des Français et des Anglais. Voilà.
Il y en aurait à peu près autant en Irak.
Ouais.
Et donc ces groupes, ces forces militaires américaines sont en proie, aujourd'hui, sont victimes d'actions militaires pour les chasser. Et donc on se prépare peut-être à une espèce de départ, moi je suis très content que ça ait lieu, mais il pourrait se passer un phénomène comme le départ de Saïgon quelque part en 1965, où ils seraient obligés de venir les chercher par hélicoptère pour éviter qu'ils meurent sur le terrain. Mais ils n'avaient rien à faire là, c'est tout. Hein. Alors qu'ils s'en aillent tout de suite, et ça évitera que d'autres sang coulent encore inutilement. Mais c'est ça qui est en cours aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut rappeler. Parce que cette occupation donc, militaire de l'est de la Syrie et d'une partie du nord-ouest de l'Irak est totalement illégale.
Ouais, exactement.
Ça, c'est le point du droit international. Voilà. Puisque j'en étais à des actions illégales des États-Unis et à des horreurs commises par les États-Unis, on va faire une toute petite pause pour évoquer le nom de Henry Kissinger. Alors, je ne vais pas faire le tour, si on peut dire rapidement, bon, il a sévi partout où il était possible de sévir dans les pires conditions. Alors, on lui doit bien entendu les bombardements du Cambodge, la guerre au Vietnam, on lui doit les interventions en Amérique latine, en particulier au Chili, d'autres interventions aux États-Unis de plus petite taille, genre la grenade et tout. Enfin, il faut savoir qu'il a occupé un poste central
très important.
Ouais. À partir, alors, il prend son essor pour le situer à partir du moment où Nixon, qu'il avait employé comme conseiller, est obligé de démissionner à cause du scandale de Watergate, et il devient secrétaire d'État sous Gerald Ford, qui était un président tellement incompétent. C'est pas moi qui le dis, c'est les électeurs américains, que quand il a voulu... Donc, Gerald Ford arrive, parce qu'il est vice-président, Nixon démissionne, et donc la Constitution des États-Unis veut que le vice-président le remplace, point, on ne discute pas. Donc, Gerald Ford se retrouve président des États-Unis sans avoir été élu, enfin, il était dans le ticket présidentiel, comme on dit. Et il se dit qu'il va se représenter une fois que son mandat temporaire s'achève, et il est battu. Ouais. Il est battu. C'est dire s'il était populaire aux États-Unis. Et donc, au moment où Gerald Ford s'installe, il prend Kissinger comme conseiller, parce que lui, Kissinger, savait très bien ce qui se passait.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, il va avoir un poids considérable, et toute la partie de la guerre du Vietnam, la partie la plus horrible en termes de nombre de morts causée par la politique de Kissinger, parce que j'appelle ça la politique de Kissinger, puisqu'au fond, il était tellement adroit, madré, rusé, enfin, je ne sais pas quel terme, qu'il arrivait à faire aller les présidents successifs qu'il a servis dans le sens où il souhaitait lui. Hein, et le sens où il souhaitait lui ne pouvait pas ne pas être aussi dans le sens des intérêts d'Israël et du sionisme. Ça, on a compris.
Bah, c'était. Voilà. Ça n'est, hein.
On a compris.
Moi, je n'ai pas peur de le dire. Voilà,
non, on a compris. Bon, donc, il fait partie du lobby. Et donc, il faisait son boulot de lobbyiste sioniste au sein du gouvernement des États-Unis avec beaucoup de poids. Ouais. Et puis, il est intervenu au Chili. Donc, c'est lui qui a organisé le coup d'État contre Allende. En déclarant dès que Allende arrive par les urnes au pouvoir, donc sans aucune violence militaire ni quoi que ce soit, dit que c'est pas possible, il faut que ça s'arrête tout de suite, et qu'il va prendre les 3 années nécessaires pour retourner une partie de la classe dirigeante chilienne contre le gouvernement de l'unité populaire, et favoriser, organiser même le coup d'État, puisque on sait en gros que ce sont les avions donc de l'aviation chilienne qui ont bombardé le palais présidentiel et qui ont tué Allende, mais on sait que toutes les communications étaient organisées, donc les messages passés par des bateaux de la marine américaine qui étaient en rade au large de Valparaiso et qui maîtrisaient les communications.
De toute façon, par où ils passent les Américains, il y a eu toujours un massacre, il y a eu toujours...
Mais oui, ça fait partie de la politique impérialiste.
Impérialiste, hein. Ouais, exactement.
Donc on écoute. Alors ce qu'on va écouter, c'est un chanteur belge qui s'appelle Julos Bocard, qui sur un ton très très doux va rappeler qui était Kissinger en parlant de la mort de Victor Jara, donc ce fameux chanteur chilien dont on a déjà parlé, dans les conditions que la chanson décrit mieux, beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Donc on écoute Julos Bocard qui s'appelle Lettre à Kissinger. Ouais.
Pendant des siècles et des siècles, nos oreilles sont là pour nous tenir éveillés. Il y a des réveils matins qui sonnent comme des clairons. Il y en a peu qui chantent des berceuses. Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche a tranché. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et Jara tomba tout son sang giclé. 6 000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être entre Kissinger et piétina Victor Jara. Chante, dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement. Faisons plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami. Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas. En 42, mais hier, en septembre 73.
Voilà, on ne peut pas dire si doucement, si poliment, ce qu'on pense de ce personnage de Kissinger et de la politique qu'il a menée ou qu'il a fait mener à son pays. Là, on a un exemple sur un cas concret. Il faut savoir que le monsieur qui a manipulé la hache est connu aujourd'hui. Il s'est même rendu au Chili récemment pour dire que c'était lui. Et donc, il aura probablement droit à un procès en bonnet du front. Donc Kissinger était quand même derrière, mais il y avait bien sûr des exécutants, comme il y a toujours des exécutants. Il y avait des exécutants, on en a parlé pour le Che en Bolivie, il y avait des exécutants, mais c'était toujours, on trouve toujours des exécutants. Dans la mesure où on a de l'argent et dans la mesure où on n'a pas de morale. C'est ça qui est important à connaître. Alors, puisqu'on en est à la morale, je voulais vous faire le point sur la situation en Ukraine. Parce qu'on commence à en parler un petit peu en parlant du front. Alors, on dit, ça se dit maintenant, parce que ça fait partie de ce qui est en cours, en préparation, que la position de Zelensky est menacée. Bon. Alors, il faut revenir quand même au passé plus récent. D'où vient Zelensky ? Alors d'où vient Zelensky ? Il est le fruit indirect, parce que dans une deuxième étape, du coup d'État organisé par les États-Unis sur la place centrale de Kiev, qu'on appelle Maïdan, au début de l'année 2014. Alors il n'arrive pas tout de suite au pouvoir, puisqu'il arrive au pouvoir un certain Porochenko, le roi du chocolat, comme on le disait, donc un oligarque quelconque, mais qui était déjà présélectionné par les États-Unis. Et puis il y a, à la date prévue d'ailleurs dans le calendrier électoral, une élection présidentielle nouvelle à laquelle Zelensky se présente. Il s'agit de prendre la place de Porochenko, qu'on considérait encore comme... Alors les oligarques russes, ukrainiens plutôt, les oligarques ukrainiens, ils étaient un peu embêtants parce que... Ils étaient oligarques, c'est-à-dire qu'il n'y avait que l'argent qui les intéressait, et selon leurs affinités, selon le type d'activité qu'ils avaient, ils tombaient plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Mais ils n'étaient pas plus fiables pour ça, pour un camp que pour un autre. Ils étaient vendables, ils plaçaient leur argent dans tel camp ou dans tel autre. Alors, Porochenko avait placé ses capitaux côté États-Unis, dans le chocolat, d'autres les avaient placés de l'autre côté, mais c'était que des oligarques, donc des gens qui ne pensaient qu'à leur intérêt personnel et pas tellement au peuple qui les élisait. Alors, c'était eux qui arrivaient quand même aux élections, parce que comme les élections s'achetaient, plus on avait d'argent, on était déjà dans le système américain, plus on avait d'argent, plus on avait de chances d'être élu. Et donc il y avait toujours quelque part des oligarques qui sortaient des urnes. Et puis là, ils se disent, bon, il faut les États-Unis, donc, qui pilotent l'opération, se dire, Porochenko, maintenant, ça suffit, puis il n'est pas absolument fiable, on en fait bien ce qu'on veut, mais enfin, il n'est pas complètement fiable. Il faut trouver quelqu'un qui ne soit rien aujourd'hui et que nous portions au sommet. Donc, on veut faire d'un rien un tout. Hein. Ça vous fait penser à une chanson, nous ne sommes rien. Hein, il n'était rien, il deviendra tout. Et c'est de là que Zelensky, il sort donc des tréteaux, il sort donc des comédies, des cabarets, etc. Hein, parce que de toute façon, politiquement, il n'existe pas. Donc, c'est le pantin idéal. Il faut le prendre, le pantin idéal, à qui on va faire ce qu'on veut, on va l'emmener, le promener sur tous les écrans de télévision, dans les parlements, à l'ONU, au Congrès des États-Unis, à l'Assemblée nationale à Paris, partout. Hein. Mais c'est parfait parce que c'est la marionnette type. Bon. Et puis, il se trouve que la situation militaire et politique en Ukraine d'aujourd'hui fait que ce personnage, cette marionnette, commence à être encombrante, parce que, d'une part, bon, il a réduit, parce qu'on lui a demandé de le faire, tous les droits démocratiques en Ukraine, droits du travail, il n'y a plus d'élections, les partis politiques sont tous interdits, les syndicats sont interdits, etc. Effectivement, il a fait un joli travail de démolition. Mais, manifestement, il faut bien mettre la responsabilité de l'échec militaire qui est patent, alors que l'Occident met longtemps à reconnaître, mais c'est en train de venir. Stoltenberg lui-même, le secrétaire général de l'ONU, a dit que l'affaire était mal engagée. Alors quand le secrétaire général de l'OTAN dit que l'affaire est mal engagée, c'est que les carottes sont cuites. Il faut que les choses soient tout à fait claires. Et donc, il faut faire porter le chapeau. Alors à qui faire porter le chapeau? Ben, au Pantin. Hein. Et donc, ça commence à se dire, ah, Zelensky est très très menacé. Il est très très menacé, d'une part par le chef d'état-major, je crois qu'il s'appelle Zaluzny, mais il est menacé par un autre personnage, et c'est sur cet autre personnage que je veux m'arrêter un peu. Il est menacé par le maire de Kiev. Pourquoi? Qui c'est le maire de Kiev et tout? Eh bien, vous ne le connaissez pas, le maire. Eh bien, ne le croisez pas dans la rue. D'ailleurs, il est à Kiev, parce que le maire de Kiev s'appelle M. Vitali Klitschko. Il est ancien champion du monde de boxe poids lourd. Il mesure 2 mètres, il pèse 114 kilos. Voilà. Bon, c'est au moins, il a de quoi être impressionnant. Hein. Et en fait, c'est très très intéressant de signaler ce qu'est ce personnage donc, de Vitali Klitschko, parce que M. Vitali Klitschko a été l'agent de Mme Angela Merkel pour prendre la place de l'Allemagne dans la nouvelle configuration ukrainienne, c'est-à-dire dans le dépeçage de l'Ukraine pro-russe. Comment ça s'est passé? Oh ben, tout simplement, vous savez qu'en Allemagne, la politique étrangère fonctionne beaucoup autour de fondations. C'est-à-dire chacun des grands partis politiques de l'Allemagne fédérale a une fondation. Fondation donc où les gens mettent de l'argent, les entreprises contribuent, chacun peut prendre des parts, etc. Ces fondations sont officiellement autonomes par rapport aux partis politiques, mais en fait, elles interviennent, elles ont beaucoup d'argent. Qui est donc déduit des impôts, elles peuvent financer des séminaires, elles peuvent envoyer des agents ici et là, faire des colloques, enfin faire des tas de choses, préparer donc le terrain diplomatique, mais dans le cadre de la politique de leur parti. La fondation qui finance, enfin qui mène les actions comme ça souterraines, j'allais dire, ou parallèles du parti, la CDU, du parti démocrate allemand, c'est la fondation Konrad Adenauer. Hein, le don de l'ancien chancelier, lui-même démocrate chrétien, qu'on connaît. Bon. Et donc, M. Klitschko, avant d'être maire de Kiev, était donc un employé de la fondation Konrad Adenauer. Et quand les Allemands se disent, bon, c'est le moment, on sent venir la préparation du coup d'État du Maïdan, ils savent qu'effectivement, il faut faire tomber le régime qui est dirigé par M. Yanukovych, donc par le Parti des régions, qui représente plutôt l'intérêt des régions de l'Est ukrainien, donc les régions plutôt pro-russes. Chacun met les siens. Et l'atout, la carte, et donc, allez dire, le pantin, c'est un pantin d'un autre gabarit. Je pense que Zelensky doit lui arriver au niveau du nombril, à peine. Bon, tant pis pour lui. Mais c'est un pantin de grande taille, très impressionnant. Et donc, la fondation Konrad Adenauer dit à Madame Merkel, bah, c'est lui qu'on envoie. Hein. D'abord, il est impressionnant et tout. Et donc, il représentera les intérêts de l'Allemagne hein, dans cette partage dans cette espèce de curé qu'on va organiser sur l'économie ukrainienne et qui pour l'instant patine un peu parce qu'on n'arrive pas à écarter les oligarques de l'Est qui ont encore la main sur une partie du territoire. Bon. C'est ce qui se fait. Donc M. Klitschko arrive dans le mouvement de la révolte de Maïdan et on sait ce qui se passe à l'intérieur du camp occidental puisque vous savez que le fameux entretien téléphonique entre Mme Victoria Nuland, secrétaire adjointe du département d'État états-unienne et je crois que c'était le premier ministre d'Estonie a fuité et que dans cet entretien téléphonique que tout le monde a entendu maintenant Mme Nuland dit surtout pas Klitschko premier ministre. Retenez bien ça, surtout pas Klitschko Premier ministre. C'est-à-dire, elle sait que Klitschko, c'est les intérêts de l'Allemagne, et donc il faut que ce soit les intérêts des États-Unis qui soient prédominants. Et donc, ils vont choisir Arsenio, qui est un autre, mais qui, lui, est plus entre les mains des Américains. Vous voyez qu'entre alliés occidentaux, quand on peut se faire un coup tordu, on n'hésite pas. Et là, que le coup tordu, il est officialisé, puisque Mme Duland, on le dit, elle ne dit pas plus, elle parle à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, elle lui dit « Non, non, pas Klitschko, pas lui, surtout pas lui hein. !» Alors finalement, on lui donnera un petit rôle comme ça, il sera maire de Kiev, ça ne mange pas de pain, c'est pas grave, hein, mais il n'a aucun poids dans les orientations politiques du nouveau gouvernement. C'est ça qui est important. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Klitschko commence à dire que Monsieur Zelensky doit partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le patron, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est plus le Parti démocrate chrétien, c'est les sociaux-démocrates de Monsieur Scholz et tout, qui sont quand même appuyés, je pense, par les démocrates chrétiens, lui disent, maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Hein? C'est le moment, Zelensky va tomber, on va prendre le relais. Et pourquoi Stoltenberg dit que les circonstances sont difficiles et pourquoi Stoltenberg appuie ce mouvement indirectement? C'est que les États-Unis ont décidé, c'est tout à fait clair, de laisser l'Ukraine tomber et l'Allemagne se dit « Ah ben non, c'est notre tour. À nous le gros lot. » C'est ça qui se passe. Et donc Klitschko est là pour dire « Maintenant on va prendre la traite des opérations. » Alors ça ne se passera pas probablement pas par une élection. Un jour, Zelensky va prendre un avion, un hélicoptère dans un endroit, puis il s'en ira, puis on dira, voilà, on n'en parlera plus. Enfin, je ne sais même pas s'ils vont s'entretuer, je ne pense pas qu'ils vont s'entretuer, on va le laisser partir. Il a quand même rendu de grands services, il s'est abondamment rempli les poches. Bon, mais la comédie Zelensky est en train de s'achever. Mais on se prépare à une autre comédie qui, pour nous Européens, est beaucoup plus douloureuse. Ça veut dire que si effectivement l'opération Klitschko-Stoltenberg, qui est parrainée par les États-Unis, puisqu'il y a eu l'appui du secrétaire, du chef d'état-major des États-Unis, le nouveau qui s'appelle M. Brown, qui a dit que c'était une très très bonne idée de se séparer de Zelensky, ça veut dire que les États-Unis ne veulent plus mettre un dollar dans ce qui restera de la société, de l'économie ukrainienne, et qui disent à l'Europe, via M. Klitschko, allez-y, prenez le bébé. Seulement le bébé est en très très mauvaise santé. Hein? C'est donc un canot épouvantablement empoisonné. Hein? On vous laisse un pays qui a perdu la guerre, qui a perdu au moins 10 millions d'habitants, qui est en décomposition sociale avancée, où les familles n'ont plus d'enfants, tout le monde cherche à s'en aller, où l'âge moyen des soldats ukrainiens qui combattent, ou ceux qui combattent sous l'uniforme, est de 45 ans. Il paraît qu'il y a même des soldats de 60 ans. Donc on peut imaginer, dans la prise d'assaut d'un bunker des soldats de 60 ans, c'est pas aussi performant que des soldats de 20. Hein. Bon, on avait tous les signes de la déliquescence de l'armée ukrainienne sont là. Bon. Et donc le cadeau que les États-Unis feraient à l'Allemagne fédérale, qui est toute contente, effectivement, elle dit je prends le morceau, et ça fait partie de mes ambitions, et puis ça fera un marché supplémentaire, et puis j'aurai là un réservoir de main-d'œuvre, ce qu'il en reste, de main-d'œuvre qualifiée. Qualifié, pas cher, puisque de toute façon ils vont se vendre pour rien du tout, hein, ils sont habitués maintenant, et donc on a là un espèce de cadeau empoisonné que les États-Unis sont en train de faire à l'Europe, sur le dos des Ukrainiens, et c'est là-dessus que je voulais attirer votre... Soyons très très méfiants, parce qu'ils veulent dire que nous allons nous payer, parce que je rappelle que les règles d'introduction d'un pays dans l'Union européenne sont des règles qui veulent qu'il soit mis à niveau économiquement et sur toute une série de réglementations du reste de l'Europe. Au niveau où est descendue l'Ukraine, il va falloir des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour les remonter à un niveau acceptable. Et ça, c'est pas le père Biden qui va payer. Il va dire « Ah ben non, débrouillez-vous entre Européens ». Voilà ce que veut dire l'affaire Klitschko. Enfin, c'est pas une affaire Klitschko. Voilà, Klitschko, c'est jamais que le nouveau pantin. Alors on a changé de taille, hein, on avait un petit, maintenant on a un petit comédien, on a un gros, alors, un bel athlète, hein, 114 kilos, 2 mètres de haut, belle prestance. Hein. Mais ça, enfin, j'ironise sur le personnage, parce que c'est presque facile, c'est une caricature entre le petit clown et le grand boxeur, mais ça n'a pas d'importance, ça fait partie d'un jeu médiatique. Ni Zelensky, ni Klitschko, s'il arrive vraiment au poste de Premier ministre ukrainien, n'auront la réalité du pouvoir et n'auront la capacité de décider de quoi que ce fût. Simplement, je dis, le cadeau empoisonné pour les Européens, il est en préparation et vous allez voir que le poison est très très fort. Méfiez-vous.
Alors, mais excusez-moi d'être naïve. Mais ça, c'est l'Allemagne. Mais l'Europe, elle n'est pas obligée d'accepter.
Alors, c'est là que ça va devenir intéressant à suivre. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit alerté. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Allemagne joue son jeu, qui est un jeu consistant à dire « Je suis le maître de l'Europe, de l'Union européenne telle qu'elle est. Je suis l'économie la plus puissante, encore que très affaiblie à cause des sanctions contre la Russie. Enfin, » tout ça est connu. Hein. Mais il faudrait que tous les autres, tous les 27, suivent. Or, on sait déjà qu'il y en a qui grognent. Il y en a qui grognent. Alors, c'est ceux qui grognent d'habitude. Hein. C'est la Hongrie, la Pologne va commencer à grogner probablement aussi. La France va jouer un rôle tout à fait important dans cette opération-là. Et on sent à différentes prises de position, plutôt à l'évolution des positions de Macron sur la question de la Palestine, qu'il est en train de s'interroger en disant, si on y va, quel est mon rôle? Eh bien, son rôle est tout petit dans les prévisions, parce que l'Allemagne le mettra de côté autant que possible. Bon, alors, qui reste prépondérant dans... Alors, c'est très étonnant, c'est pas dans l'Union européenne que ça se passe à Londres. Pourquoi? Parce que vous savez pas qu'il y a eu un changement de ministre des Affaires étrangères à Londres? Ben, regardez bien dans les journaux. Qui est venu prendre la place de ministre des Affaires étrangères, parce que la personne à laquelle il succède n'est pas très très brillante? C'est monsieur Boris Johnson. Oui, c'est vrai. Or, Boris Johnson, c'est le monsieur qui a engagé l'Ukraine dans cette longue guerre contre la Russie. Tout ça est connu. Bon, il revient donc au pouvoir, hein, à un poste secondaire, parce qu'on ne l'a pas remis Premier ministre. Hein, mais en fait, il revient au moment où, effectivement, un coup tordu contre les Européens est en cours de préparation. Et il le fait d'autant plus aisément qu'il n'est plus dans l'Europe. Donc il peut faire toutes les méchancetés, toutes les vacheries qu'il veut aux Européens. Ça ne le coûte rien puisqu'il n'est plus dans le système de décision européen. Voilà les acteurs de cette épouvantable comédie que je voulais décrire. Donc cet acteur, l'acteur allemand, qui veut beaucoup de pouvoir et qui veut mettre la main sur ce morceau de territoire européen sur lequel il n'y a rien. Donc quand vous avez entendu des campagnes, il faut que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. C'est ça que ça veut dire. Ah, ils vont rentrer, parce qu'il en restera, parce qu'on peut discuter de ce qu'il en restera, et puis de toute façon, c'est les Européens qui vont payer la reconstruction de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est les Américains qui ont lancé la guerre, c'est les Américains qui ont fourni le premier armement, et qui continuent, qui ont mis des millions de dollars sur la table, hein, et après, une fois que le gâchis est fait, c'est les Européens qui viennent ramasser les morceaux. Merci les amis de Washington, vous êtes vraiment des frères pour nous, hein, on avait compris depuis longtemps. Voilà ce que je voulais expliquer sur l'évolution de la situation en Ukraine, et on ne va pas évidemment vous la présenter comme ça.
On a l'impression qu'ils ont senti que la victoire est pour la Russie.
Ah ben ça je pense, les propos de Stoltenberg, il est gentil Stoltenberg, il dit ça va être difficile, bon ça veut dire qu'ils savent bien que c'est perdu, ouais. Ils savent bien que c'est perdu, ils savent que contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, la grande offensive ukrainienne n'a pas permis de percer le front russe il n'a pas bougé, et que ce qu'on est en train de voir maintenant ces jours-ci, c'est plutôt l'avancée des troupes russes, tranquillement, parce que de toute façon, l'armée ukrainienne est en débandade, et puis l'armée ukrainienne c'est 100 000 morts par mois. C'est monstrueux, c'est proprement monstrueux, parce qu'ils s'exposent en plein air à des tirs d'artillerie très très puissants, et les Russes n'ont qu'à tirer dans le tas. Hein, et c'est ça qu'on fait faire à l'armée ukrainienne. Hein. Bon, donc les Ukrainiens, enfin même le chef d'état-major des États-Unis, il a compris, parce qu'à ce rythme-là, il n'y aura plus personne pour aller à la guerre. Et on a des situations maintenant où des troupes ukrainiennes qui vont approcher ou qui approchent d'un endroit russe déposent les armes et disent maintenant on arrête, hein, parce que de toute façon, c'est un massacre.
J'ai l'impression qu'ils ont la défaite, ils l'ont acceptée.
Ah, mais
ils
disent
Zelensky.
Mais oui, non, c'est pour ça. Zelensky, il sait qu'il est sur le départ et qu'il n'a plus intérêt à faire le mariole. Tous les discours qu'il a tenus, on peut les lui ressortir. Tu allais annoncer une grande offensive, une victoire et tout. Ça ne tient pas, on t'avait dit dire ça, t'as dit ça. Bon, les faits démontrent que ce n'est pas vrai. Ouais, bon, ouais. Maintenant, bah, tu ne sers plus à rien, va-t'en. Voilà, c'est tout, c'est ce qui va se passer. Voilà, je voulais éclairer ça pour bien comprendre cette évolution de la situation ukrainienne. Et puis, je ne voulais pas ne pas parler. Alors, l'Europe. Alors, les visées allemandes sont quand même très, très intéressantes, parce que dans le même temps où ils se préparent à mettre la main au nom de l'Europe sur l'Ukraine, ou ce qu'il en restera, ils sont en train d'avancer sur un autre chemin qui est tout aussi dangereux, et ils le font par le biais du Parlement européen. Alors, le Parlement européen, c'est une assemblée, d'ailleurs. Ouais. Dont le terme, dont l'appellation même est discutable, c'est pas un parlement qui vote des lois, contrairement au parlement dans nos constitutions sur un nous. C'est une espèce d'assemblée qui met son grain de sel un peu sur tout. Ça n'a pas beaucoup d'importance puisque il n'y a pas d'effet qui s'en suivent. En fait, c'est la Commission qui prend les décisions pour l'Union européenne et ce n'est pas le Parlement. Mais on enregistre au Parlement des évolutions d'une attitude politique, de position politique de l'Europe. Or, ce qui est en train, ce qui a été voté récemment au Parlement européen, c'est le chemin vers une Europe fédérale. Alors, retenez bien le terme, l'Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe, alors prenez l'exemple sur les États-Unis si vous voulez, ouais. Où il y a un gouvernement central, et puis il y a des petites unités séparées qui peuvent s'appeler la France, l'Italie, etc. Mais le gros des orientations, la politique internationale et la politique étrangère sont entre les mains du gouvernement fédéral. Alors, ça a l'air de rien, mais écoutez bien, si jamais ce projet arrivait, le ministre de la Défense nationale français serait juste un monsieur qui apporte des troupes et du matériel, et ce serait un monsieur, quelque part à Bruxelles ou à Berlin, je ne sais pas, qui dirait « voilà notre politique, on va faire ci, on va faire ça, on va attaquer ci, on va attaquer ça ». Donc, la France ne serait plus la France, c'est tout, ce serait simplement un morceau d'un ensemble encore mal défini, qui serait entre les mains de l'Allemagne, enfin, l'Allemagne a bien envie que ce soit comme ça, l'Allemagne qui serait elle-même probablement assez proche des États-Unis, parce que vous savez que quand il y a une espèce de rivalité entre l'Allemagne et les États-Unis, ça s'est fait deux fois dans le XXe siècle, quand il y a une rivalité entre ces deux pays, c'est-à-dire quand l'Allemagne lève la tête trop haut, les États-Unis viennent en disant « petit, c'est moi le vrai patron ». Et donc il faut savoir qu'à aucun moment dans ce genre de situation les États-Unis ne laissent grossir un concurrent éventuel, parce que l'Europe c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de capacités industrielles et tout, et donc on peut les laisser aller leur chemin, prendre la main sur l'Europe et à un moment donné leur dire maintenant petit, tu vas pas plus loin que ça parce que c'est nous qui commandons. Alors ça s'est passé comme ça deux fois, ça c'est la première guerre mondiale, la deuxième fois c'est la deuxième guerre mondiale. Si on ne veut pas aller vers une troisième guerre mondiale sur le même schéma, ne laissons pas l'Europe fédérale se mettre en place. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ce que j'annonce, et qu'il faut que ce soit bien clair dans l'esprit des citoyens français qui vont être appelés à voter pour le soi-disant Parlement européen au mois de mai ou de juin, je ne sais plus quelle est la date, elle doit être fixée. Il s'agit en fait de ne pas voter, c'est-à-dire que de toute façon, tout vote sera interprété et on va vous faire une campagne épouvantable pour dire « Vive l'Europe unie », ça veut dire « Vive la disparition de la République française
». C'est
là-dessus que vous aurez à vous exprimer. Donc, alors on s'exprimera, pour ma part je m'exprimerai en ne participant pas au vote à l'évidence, mais il faudra bien que ceux d'entre vous qui envisageront d'aller voter et qui vont être soumis à une intense campagne de propagande qui a déjà commencé, vous avez peut-être vu des affiches un peu partout, UEU, hein, ça fait partie des centaines de millions d'euros qui sont déjà dépensés pour vous convaincre que l'Europe nous veut du bien. Non, l'Europe fédérale prévue par l'Allemagne et indirectement par les États ne veut pas de bien, elle veut la destruction de la République française. Que les choses soient bien claires, hein, nous ne nous trompons pas, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Ce n'est pas un petit événement secondaire, c'est un événement central dans la politique et dans l'histoire de notre pays. Je tenais à le dire très clairement et puis on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Et puis je vais vous évoquer différents personnages et différents discours qui sont intervenus à la COP28. Alors la COP28 c'est une espèce de grand capharnaüm, alors on dirait caravansérail, grand tout comme ça. Il est quand même venu à Dubaï 70 000 personnes pour assister aux travaux de la COP28.
Ouais. Hein?
Alors, on ne sait pas ce qui en sortira. Ce qui est intéressant, c'est de noter que tout le monde vient prendre la parole. Alors, il y a ceux qui prennent la parole officiellement, qui disent des choses très intéressantes, je vais vous en citer quelques-uns. Puis il y a ceux qui font leur course. Et puis il y a ceux qui défendent leurs intérêts. Parce que le meneur de jeu, celui qui anime les débats, ce n'est pas du tout l'émir de Dubaï, c'est l'émir d'Abu Dhabi. Et même le ministre du pétrole d'Abu Dhabi. Hein, parce que vous savez que dans les Émirats Unis, il y en a un qui fait le clinquant et les grandes tours et tout, ça c'est Dubaï, et puis il y en a un qui a la réalité du business pétrolier, c'est Abu Dhabi, et qui a le trésor, c'est lui qui a l'argent.
C'est lui qui a la casse. Ouais.
Bon. Alors, c'est lui, c'est ce monsieur donc, qui est l'animateur des débats de la COP28 et qui en même temps peut discuter de contrats pétroliers, c'est-à-dire que lui, ne plus vendre de pétrole, ça lui est pas venu à l'idée. Si on lui dit gentiment, il dira oui, peut-être dans 30 ans j'en vendrai plus, mais en attendant, demain matin, je suis très vendeur. Hein. Et si vous achetez, je suis suis content. Et je suis là, on en parle tout à l'heure, venez boire un café, on en discute. Hein. C'est comme ça que ça se passe, la COP, il faut voir. Bon. Et chacun vient avec ses intérêts. Ses... Alors, il y a donc une façade, les discours de façade, dont certains sont très intéressants. Et puis, il y a tous les dessous, parce qu'il peut se passer en quelques jours, dans ce petit, cette espèce de mouchoir de poche qu'est Dubaï, entre les grands hôtels, dans des salons discrets, dans des chambres, il peut se passer des discussions sur lesquelles vous ne saurez rien, mais où il va se signer des gros contrats, y compris des contrats pétroliers, des contrats gaziers. Hein. Alors on va mettre, alors c'est rigolo parce que ça se passe à Dubaï et à Abu Dhabi, donc on dit pas de mal du pétrole, mais on dit du mal du charbon. Alors ça, le charbon, alors ça... calamité, le charbon, puis on dit qui se sert encore du charbon? Alors on regarde condescendant sur l'Inde et sur la Chine populaire, hein, regardez, ils en sont encore à l'ère du charbon. Alors c'est pas tout à fait exact, parce que ce qui les embarrasse pour la Chine, c'est qu'en même temps elle est le premier producteur mondial de panneaux solaires, elle est le producteur mondial d'éoliennes, elle fait un effort que beaucoup de pays n'ont pas fait pour utiliser ces énergies renouvelables en connaissant en même temps les limites, donc c'est difficile de la prendre en forme. Mais l'Inde prête effectivement beaucoup le flanc à la critique, l'Inde dépend énormément de son charbon pour son énergie électrique. Donc il y a tout ça. Et puis il y a quelques propositions ou quelques propos intéressants qui sont tenus à cette occasion. Alors il y a eu des propos très intéressants du président de Cuba, qui était de la fête, mais qui avant d'aller à Dubaï, s'est arrêté en route, il a fait un saut au Qatar. Tiens, pourquoi il s'est arrêté au Qatar? Eh bien, il avait une excellente raison de s'arrêter au Qatar. Savez-vous pourquoi? Parce que le Qatar, bon, il y a beaucoup d'argent, il y a quand même un système hospitalier, parce qu'on peut quand même se payer des hôpitaux avec des bons médecins, comme on se paye des footballeurs. C'est la même chose, ça se dit moins, mais ça se fait aussi. Et il se trouve que malgré tout, il y a au Qatar 1100 médecins et infirmiers cubains qui travaillent depuis des années.
Ouais, c'est vrai.
Et M. Díaz-Canel est venu leur rendre hommage, il les a reçus, et il leur a parlé, et il a fait état des résultats de leur travail, qui est tel que la médecine qatari officielle, donc les médecins recrutés avec l'argent de l'émir, ont moins de succès que les hôpitaux cubains, enfin l'hôpital d'origine, plus les petites
antennes. Beaucoup de recherches scientifiques au Qatar, hein, c'est
voilà.
Vrai.
Et donc les Qataris eux-mêmes reconnaissent qu'effectivement, ils ont affaire à des gens de très très haut niveau, très qualifiés, qui travaillent bien, qui travaillent sérieusement. Et donc en fait, le système cubain est en train un peu de vider le système qatari de sanitaire, parce qu'ils travaillent mieux que les médecins recrutés sur le marché international par le Qatar. Ça, c'était très intéressant à se rendre compte, c'est-à-dire que dans ces circonstances extrêmement douloureuses et dans un pays qui suscite pas beaucoup l'admiration, le Qatar... voilà, un pays qui représente, mais qui a beaucoup d'argent, on a affaire à une initiative cubaine qui est une voie pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour votre santé et qui ne viennent pas pour vendre des bombes ou pour vous faire du mal. C'est très, très, le message cubain continue à passer, même dans des endroits où on pensait qu'il ne passerait pas, parce qu'on avait l'idée de dire les médecins cubains ne vont qu'en des endroits où il y a eu des catastrophes naturelles, hein, des zones, des inondations, des tremblements. Ben là, non.
Il y en a même en Arabie Saoudite, parce qu'ils
travaillent bien et ils travaillent dans le respect de ce qu'on appelle nous le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire ils viennent pour soigner, c'est tout, pas plus. Et c'est déjà énorme, parce que soigner, c'est une des premières tâches d'un gouvernement. Bon. Alors, qui a pris la parole? Bon, M. Díaz-Canel a pris la parole aussi à Dubaï, mais je veux m'arrêter aussi sur deux interventions. Une qui est celle de M. Loukachenko. M. Loukachenko, vous savez, c'est le président du Bélarus, qui dans la foulée d'ailleurs est parti à Pékin après avoir quitté Dubaï. Et il a dit toute une série de choses intéressantes, dont je vais vous livrer quelques extraits. Il dit, enfin je prends quelques ça au passage, le climat change, c'est clair. Il s'agit tout d'abord de l'absence de sens des proportions dans la poursuite de la supériorité géopolitique, y compris militaire, je dirais même avant tout militaire, de ceux qui provoquent et enflamment des foyers de guerre aux quatre coins de la planète. Et les guerres sont la principale source de saleté sur notre continent. C'est la soif de profit qui transforme les ressources naturelles en capital personnel et vole les générations futures. C'est une tentative d'écarter de son chemin les pays qui entravent l'asservissement du monde entier et de le détruire en extrayant tous les sucs de la terre. Et tout cela se fait parfois ostensiblement dans l'optique du développement durable. Et là, il insiste parce qu'il dit, attention, moi j'ai bien lu les programmes des États-Unis sur le développement durable, c'est souvent fait au seul profit des pays exploiteurs et occidentaux. Bon, il en dit tout. Alors, c'est très facile à trouver sur le net, ça a été traduit en français. Je crois que c'est même sur le site du Grand Soir que la traduction française existe. Donc, je vous invite à le lire parce qu'il y a deux pages de ce niveau-là. C'est-à-dire que ce monsieur, donc, qui représente un pays de 10 millions d'habitants, qui est en train d'intensifier ou plutôt de reprendre des relations fraternelles avec la Russie, ce qui n'a pas été le cas pendant toute une période, mais les relations s'améliorent. Elles s'améliorent d'autant plus que, alors j'allais dire, plus la Russie reprend des positions politiques proches d'une tendance de gauche, c'est à l'œuvre, plus le Bélarus, le tout petit Bélarus, on s'en trouve bien. Mais il faut savoir que M. Loukachenko, lui, n'a jamais abandonné ses notions d'économie publique, entreprise nationalisée d'État, qui fonctionne, qui marche bien. Je signale que les tracteurs du Bélarus, les bulldozers du Bélarus, sont des instruments appréciés dans le monde entier. Je voyais récemment que le Zimbabwe vient s'équiper en tracteurs biélorusses, parce qu'ils sont parmi les meilleurs du monde au meilleur prix. Voilà. Bon, c'est ça. Et monsieur le président chinois a accueilli, après Dubaï, a accueilli monsieur Loukachenko et lui a dit, vous faites un très beau travail, vous faites le socialisme en tenant compte des capacités de votre pays, nous vous aiderons. C'est tout à fait... Et donc, il insiste bien sur le caractère, comme à la chinoise, dire, hein, le socialisme à la chinoise dans les conditions chinoises, eh bien, il y a un socialisme bélarusse dans les conditions du Bélarus. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis le dernier, c'est monsieur, Gustavo Petro, mais j'en reparlerai la semaine prochaine. Gustavo Petro, le président de la Colombie, qui a chargé le gouvernement israélien en considérant que c'était un gouvernement fasciste et nazi. On pourra en dire plus long, mais enfin, c'est tout à fait clair. Il l'a analysé et il sait le mal qu'a fait Israël dans son propre pays pour financer les assassins, les brigades, les tueurs. À charge. Voilà. Merci de votre attention. On se retrouve mardi prochain. Merci Roselyne. Et merci Habib d'être venu. Voilà. Bonne semaine à tous.
Merci.